sommes pour cette nouvelle émission des carnets hebdomadaires de Comaguerre, en compagnie de mes complices habituels. Bonjour Roselyne.
Bonjour.
Bonjour Habib.
Bonjour, bonjour.
Et avec le plaisir de retrouver dans la cabine
bonjour,
technique
l'équipe.
Aïcha. Bonjour Aïcha.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission qui est la dernière de la saison d'été, commencée il y a un mois. On va s'arrêter donc pendant 15 jours. Et sauf, alors j'allais dire, mais on n'en a pas parlé, mais c'est une question que je pose à Aïcha comme ça en direct devant tous les auditeurs. Est-ce que de l'endroit où je serai en vacances, si jamais, imaginons, je ne sais pas, qu'il y a la révolution aux États-Unis, que, par exemple, la foule renverse Biden et tout, est-ce que vous m'autoriseriez à passer un coup de fil pour donner mon impression ?
Oui, bien sûr, bien voilà. Sûr.
Alors, je prenais ça un cas parmi d'autres. Hein. Alors, un cas qui est un peu plus probable, et ça va me permettre de commencer cette émission, c'est que je pense que le début des négociations sur la question ukrainienne, donc ce qui voudrait dire on négocie quand il y a un cessez-le-feu, on ne va pas négocier pendant qu'il y a des tirs qui s'échangent, je pense que c'est ça l'avancement des choses normales. Il y a un cessez-le-feu qui est destiné à négocier, et puis on sort du cessez-le-feu avec un accord ou on ne sort pas, et à ce moment-là le feu peut reprendre. Mais quels sont les signes de l'approche du cessez-le-feu ? Alors il y en a plusieurs. Le premier sur lequel je vais m'arrêter, c'est la question des exportations de blé, de grains, pas que du blé d'ailleurs, il y en a d'autres, et des exportations d'engrais. Les exportations de blé concernent, vous le savez, on vous l'a dit et redit, l'Ukraine et la Russie, en quantité plus importante d'ailleurs que l'Ukraine, et les exportations d'engrais concernent principalement la Russie, qui est un gros exportateur sur le marché mondial. Et vous savez que pour sortir de la mer Noire, il faut pouvoir circuler et que les navires de commerce puissent circuler en toute tranquillité. Or, il y a eu à Istanbul, dans un lieu qui a été tenu secret avant la réunion, une réunion donc organisée par le ministre des Affaires étrangères turc, où il y avait donc une délégation ukrainienne et une délégation russe qui faisaient face à face dans la photo qu'on voit, qui a été publiée. On voit les deux délégations qui sont pas trop le sourire aux lèvres. Elles sont assez éloignées dans l'espace. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou d'autre chose. Hein. Enfin, c'est une grande, grande salle où ils ne sont pas à touche-touche. Bon. Mais ceci étant, on sort de là avec un projet d'accord. Un projet d'accord consistant à dire que les Ukrainiens acceptent de laisser passer les bateaux, c'est-à-dire ils acceptent de déminer et d'enlever toutes les mines, au moins du trajet qui sera retenu sous contrôle de la marine turque et sous contrôle de la marine russe et de ce qui reste de la marine ukrainienne. Donc il y aura un chenal, un corridor pour que les navires qui exportent le blé ukrainien, le blé russe et les engrais russes puissent sortir. Alors, traverser la mer Noire, donc sans risquer d'exploser sur des mines, et ensuite avoir le passage autorisé en application du droit international, je rappelle, la fameuse convention de Montreux, qui oblige la Russie, donc héritière de l'Empire ottoman, à la Turquie, à laisser passer les navires de commerce dans le Bosphore et dans les Dardanelles. Bon. Tout ça est un signe qu'effectivement, il y a une volonté de sortir de ce blocage et une volonté qui a été reconnue dans le communiqué qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères turc de dire « il ne faut pas que la totalité du monde souffre de ce conflit-là ». Et le fait que ce soit l'Ukraine qui accepte de déminer, elle reconnaît de facto sa responsabilité dans le blocage. Donc ça, c'est un pas qu'ils n'avaient pas réussi à faire. Mmh. Ça fait quelque temps déjà que la Russie disait « mais nous, on veut bien laisser passer les bateaux, mais on ne peut pas passer, il y a les mines partout ». Et ce n'est pas nous qui les avons mises. Donc il y a eu toute une période de petits jeux en disant « c'est des mines russes, les Ukrainiens disaient ça, les Russes disaient « non, nous, on n'a mis aucune mine, ce n'est pas notre intérêt ». Bon, ce petit jeu idiot a fait perdre beaucoup de temps, mais on va en sortir. Ça, c'est la première donnée. Et si le gouvernement ukrainien accepte, enfin, je ne sais pas qui étaient les émissaires ukrainiens à cet endroit, mais il s'agit d'un sujet extrêmement sensible, d'autant plus sensible que l'application est immédiate, car il faut savoir, ce qui est vrai côté russe comme côté ukrainien, qu'il y a dans les silos, donc en particulier les silos d'Odessa, les silos de Mariupol, de Berdiansk, de toute une série de ports, il y a du blé de l'année dernière. Oui. Le blé n'est pas récolté encore. On est fin juillet, c'est un peu tôt. Hein, le blé dans cette région-là se récolte plutôt dans un mois et demi. Hein. Et donc, il s'agit de vider d'abord les silos avec la récolte de l'année dernière ou celle d'avant. Bon. Une fois que les silos sont vides, on peut les remplir avec la récolte de l'année. Bon.
Il faut de la place.
Voilà, il faut de la place. Donc, c'est ça qui se met en place. Ça veut dire qu'on devient, on assiste à un dialogue entre personnes raisonnable. Hein, pas un dialogue de propagande. Effectivement, on a beaucoup créé d'émotions, et légitimes d'ailleurs, dans toute une pays du monde, des pays pauvres en particulier, en disant on n'aura bientôt rien à manger. Hein. La faute, ah, alors, ils pouvaient dire librement aux Russes, aux Ukrainiens, ils faisaient faute à la guerre. Bon, maintenant, c'est clair que l'Ukraine a reconnu ses responsabilités, c'est-à-dire elle avait voulu compliquer les choses et mettre la Russie dans une position d'être critiquée par le monde entier. C'est de leur faute. Voilà. C'est ça depuis le 24 février, c'est constant. C'est, tout ça est de la faute à la Russie. L'Ukraine n'a rien fait, on n'a affaire qu'à des braves gens. Bon, bref, j'insiste pas là-dessus. L'affaire est maintenant assez connue, au point qu'on voit déjà des journalistes occidentaux commencer à dire « Oui, cette dépêche ukrainienne dit que... » Bon, puis après, ben oui, ben, chacun peut faire ses commentaires, alors qu'il y a de ça encore 2 mois, c'était, on affirmait que le contenu de la dépêche ukrainienne, c'était la vérité. Bon. Maintenant, il y a un peu plus de distance, parce que le nombre de démentis a quand même été suffisamment important.
Et on en parle moins.
Voilà, on en parle moins, et puis maintenant, les journalistes commencent à dire, ça, on nous le dit, mais est-ce que c'est vrai? Alors, l'AFP Kiev, par exemple, est suspecte, Reuters se met à dire, c'est un communiqué du gouvernement ukrainien. Je ne dis pas plus. Alors quand Reuters, qui est une des plus grandes agences de presse mondiale britannique d'origine, dit « Voilà, moi, je vous dis ce que le communiqué du gouvernement ukrainien dit », ça n'est pas la position de Reuters. Et on a même un cas qui a eu lieu cette semaine où dans le Washington Post ou dans le New York Times, l'entête de l'article est une affirmation, j'allais dire, de source ukrainienne. Et le correspondant, et dans l'intérieur du journal, le correspondant sur place du journal américain dit qu'il n'est pas du tout sûr de ce qui est affirmé par les autorités ukrainiennes. Mais effectivement, on a toujours le même effet dans les médias. Vous mettez à la une un titre sanguillonnant en disant « c'est la faute des Russes », et le correspondant de l'agence sur place dans l'intérieur du journal que vous n'allez pas lire dit « moi, je suis pas trop sûr que ce soit passé comme ça ». Bon. On a ce genre d'évolution. Alors, je coupe un peu les cheveux en quatre, je vais dans les détails et tout, mais c'est à ça qu'on voit, entre autres, l'évolution du conflit et surtout des rapports de force. Une autre évolution qui a eu lieu, et ça c'est tout récent, ça date de ce week-end, c'est que le président ukrainien s'est débarrassé très sèchement et très brutalement de 2 personnages très très importants, dont je vous donne les noms. Et ça va être du chef du SBU. Le SBU, ouais. C'est la police ukrainienne, qui s'appelle Ivan Bakhamov, et la procureure générale, Madame Irina Venedikova, qui ont tous les deux été licenciés, mis à la porte sèchement par le président du gouvernement, et de leur fonction plutôt, puisqu'ils n'étaient pas ministres. Donc la procureure générale, donc là, en gros la ministre de la Justice, et le chef des services de renseignement et la police ukrainienne. Alors, pour donner une échelle quand même, ce monsieur, donc Ivan Bakhamov, était à la tête de 35 000 fonctionnaires. Alors, ça ne vous dit rien, vous n'avez pas idée de ce que c'est l'effectif d'une police. Je signale que 35 000, c'est au chiffre près, au millier près, le même nombre qu'il y a d'agents au FBI des États-Unis. Bon, alors, vous voyez, donc, là, expansion extraordinaire, taille extraordinaire des services, donc des services de renseignement, d'espionnage politique et tout, qui étaient énormes, surdimensionnés, et donc un pays où la logique policière avait beaucoup, beaucoup d'importance. Il se trouve que ces deux personnages... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient considérés tous les deux comme très, très proches du président ukrainien. Ils ont été donc débarqués très sèchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'explication la plus classique, c'est que on s'est aperçu, donc dans l'entourage direct du président, que le service de renseignement, donc de M. Bakhamov, était infiltré par des agents russes. Et que donc les agents russes savaient très précisément tout ce qui se passait dans la police ukrainienne. Enfin, peut-être pas tout, mais ils en savaient beaucoup. Alors, c'est effectivement une faiblesse du système, mais qui s'explique aussi, et ça renvoie à la réalité de ce pays-là. C'est-à-dire que les fonctionnaires, les 35 000 fonctionnaires, parlent comme... On le dit plus maintenant, mais la réalité sociale avant les événements et avant même l'indépendance, disons, de l'Ukraine, c'était que les citoyens de ce pays parlaient indifféremment le russe et l'ukrainien. Et on pouvait très bien, là, le même jour, parler les deux langues. Hein, ça ne posait pas problème. Donc là, les deux langues sont plus que cousines. Enfin, je vais prendre un exemple. Monsieur Zelensky s'appelle de son prénom, vous le verrez la version ukrainienne, Volodymyr. Oui, mais Volodymyr, c'est Vladimir en russe. Hein. Et donc tout est comme ça, tout se ressemble. Hein. Et donc en fait, le passage d'une langue à l'autre est extrêmement facile. Ce qui fait que un infiltré, disons un espion russe, je fais simple, qui va s'infiltrer dans la police ukrainienne, il sera indétectable. Indétectable. Alors que c'est pas possible si vous avez fait deux pays étrangers, hein, si vous avez des gens de couleurs de peau différentes et tout. Là, c'est guère possible. Mm-hmm. Et donc, on sait et on a compris que, au moins depuis 2014, les services, la police et les services de renseignement russes s'étaient préparés à cette évolution et que donc ils avaient fait le nécessaire pour savoir exactement ce qui se préparait, où et comment et avec qui. Et donc quand M. Zelensky tout d'un coup découvre que sa police politique est infiltrée par les Russes, ben, il est obligé d'en tirer la conséquence, c'est-à-dire que ça risque de se reproduire. On ajoute à ça, alors ça c'est les mauvaises langues de Moscou qui disent, de toute façon, le niveau de corruption à Kiev est arrivé à un tel niveau que pratiquement on peut retourner n'importe quel fonctionnaire avec un gros chèque. Bon. Voilà. Donc ça signe l'affaiblissement réel de la position de Zelensky, d'où cette tentative qui est très révélatrice pour la circulation des exportations de blé et d'engrais, début de conciliation. C'est pour ça que ça m'a amené à dire, je n'exclus pas que dans le courant de l'été, on en arrive à un moment où il faudra négocier, puisque militairement, il n'y a pas d'issue. Alors, l'Ukraine tente des manœuvres presque désespérées en allant tirer sur des cibles vraiment en Russie elle-même, mais ça suscite tout de suite une réponse, une riposte qui a lieu. Alors, avec la tactique militaire qui est organisée par la Russie, c'est pas l'affrontement direct au corps à corps entre les armées ukrainiennes et les armées russes ou les armées des indépendantistes, c'est d'abord un pilonnage d'artillerie, où la Russie est en position extraordinairement supérieure, dominatrice et tout. Et donc, ils voient qu'à un endroit, les forces ukrainiennes se concentrent et ils vont préparer le terrain avant de donner un assaut quand il y a lieu. Il y a quelquefois même pas lieu de donner d'assaut. Les troupes ukrainiennes ne se battent pas, s'en vont et laissent même le matériel sur place. Alors ça prend un certain temps parce que la préparation d'artillerie peut prendre 8, 10, 15 jours. Hein. Ça, on voit, enfin, chaque cas est particulier. Mais c'est ça qui compte. Et puis, il y a de temps en temps des actions sur des cibles logistiques beaucoup plus intéressantes. Il y a eu le cas ces derniers jours, parce qu'il y a eu un tir donc, de missiles hypersoniques russes sur une fabrique de missiles. Alors, je m'arrête là-dessus. Cette fabrique de missiles donc, était héritée donc, de l'URSS. Il faut savoir que dans le cadre de l'URSS, l'Ukraine était donc le pays technologiquement, la République socialiste slovaque, la technologiquement la plus avancée, et qu'elle avait en particulier un rôle dans la fabrication des missiles porteurs des bombes atomiques. Et donc il était resté un savoir-faire des usines, des ateliers, des chaînes de fabrication où on savait fabriquer des missiles dans cette région-là d'Ukraine. Et puis après 2014, puisque c'est là que tout a basculé au moins dans l'esprit des Russes, après 2014, il s'est avéré que l'Ukraine continuait à fabriquer des produits, mais qui n'étaient plus du tout destinés à lancer des satellites artificiels soviétiques, mais à tirer des missiles sur l'armée russe et sur la Russie. Bon. Et donc c'est à partir de ce moment-là que les Russes se sont dit bon, ben, les choses sont en train de se transformer vers une préparation à la guerre, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. J'insiste là-dessus parce qu'on ne le dit pas assez, on a parlé de l'agression russe et tout. La préparation à la guerre par l'Ukraine a débuté en 2014 et elle n'a jamais cessé. Et il est établi maintenant que l'action militaire prévue de l'Ukraine contre la Russie, donc action qui était organisée avec du matériel, avec des troupes formées, encadrées, organisées, avec des avions de surveillance des États-Unis qui donnaient la position des troupes russes, etc., aurait eu lieu dans les jours précédant le 24 février. Ça avait été quasiment annoncé dans la réunion à Munich de la conférence sur la sécurité en Europe du 19, au cours de laquelle, je le rappelle, c'est là que la Russie a dit qu'on y était, le président Zelensky a annoncé que l'Ukraine allait se doter de l'arme atomique. Et donc à ce moment-là, ça a été le dernier déclic. Donc, bon, on est prêt. Ils avaient vu, c'était très facile à voir aussi, et puis ils avaient leur service de renseignement, que les troupes ukrainiennes formées, équipées, étaient prêtes à l'assaut sur les républiques du Donbass. Et à l'annonce définitive de la recherche de l'arme nucléaire, c'était une annonce de recherche. Ils ne l'avaient pas encore, mais ils voulaient l'avoir. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. ça ramène sur la genèse de ce conflit, et ça explique pourquoi, maintenant que tout ça est connu, y compris par les services de renseignement occidentaux, y compris par la Maison-Blanche, y compris par tout le monde, eh bien, il faut bien commencer à en tirer les conséquences et à dire aux comédiens de service, bon, il y a un nouveau rôle à apprendre. Hein. Alors, est-ce qu'il voudra lui-même être l'homme qui mène les négociations ou qui mène la capitulation? Je ne sais pas. Ou on en trouvera un autre? Ça, c'est leur problème à eux. Ça, c'est le problème du metteur en scène. Alors, qui est le metteur en scène? Bon, quelque part, il y a un metteur en scène, mais il n'est évidemment pas à Kiev, où il y a simplement des répétitions de comédiens et d'aspirants comédiens, peut-être, parce que j'exclus pas qu'il y ait dans la population ukrainienne des gens encore honnêtes et extérieurs au système de la corruption qui soient prêts à dire « on voudrait essayer de sauver l'Ukraine ou ce qui peut en être sauvé ». C'est évidemment pas eux que Zelensky va aller chercher, mais il y a peut-être aussi des gens de cet acabit-là qui sont cachés, qui sont prudents, parce que s'ils le disent aujourd'hui trop ouvertement, ils risquent de mourir, mais il se peut qu'ils existent.
Hein ? Sûrement.
Voilà. Faisons ce pari. Faisons ce pari parce qu'il mérite d'être fait. Ceci étant, bon, qu'est-ce qui sera négocié ou négociable ? C'est l'existence d'un ou deux pays, plus probablement deux. Probablement deux, parce que effectivement, on ne peut pas demander aux populations du Donbass, avec tout ce que l'Ukraine, enfin le régime de Zelensky et de Porochenko leur ont fait, à ce qu'ils veulent revenir dans un État ukrainien, dans l'État où il est. Bon. Donc la volonté, d'ailleurs les deux républiques ont été reconnues déjà, donc Lugansk et Donetsk ont été reconnus, et on sait qu'en plus, la Russie donne beaucoup de passeports russes à ceux qui les demandent.
Il y a donc pas mal de pays qu'ils ont.
Alors il y a la reconnaissance par l'Iran,
il y a la reconnaissance par la Syrie,
il y a la reconnaissance par la Serbie, par la Corée du Nord. Non, ça vient petit à petit.
La Chine, je ne sais pas.
La Chine, je ne crois pas encore. Pas encore. Mais c'est en train de venir. Ouais. Et donc probablement, on s'achemine vers une partition du pays entre des gens qui ne voudront pas retomber dans un cercle ukrainien dont ils savent qu'il est bardé de fascistes, et d'autres qui essaieront de survivre tant bien que mal avec de bonnes relations avec leurs voisins polonais, hongrois, slovaques, sur la partie occidentale du territoire.
— La Crimée,
Alors la Crimée, ça fait plus l'ombre d'un doute. Hein. Les deux républiques indépendantistes, ça fait plus de doute non plus. Et puis tout le rivage donc nord de la mer d'Azov, qui est occupé aujourd'hui et par les indépendantistes et par l'armée russe, ça fait pas de doute non plus. Ah. On est dans une province, une partie de l'Ukraine qui s'appelait la Novorossiya, la Nouvelle-Russie, où on parle russe depuis longtemps, où on se considère comme de la grande famille russe. Ça, c'est la réalité.
Et ce qui va dans... En Ukraine, il y a plusieurs ethnies, je crois, et qui...
Oui. Mais là, c'est un État... Alors, il faut le dire, c'est un État quand même un peu artificiel qui a été fabriqué. L'idée de la fabrication des républiques socialistes soviétiques par Lénine, puisque c'est à ce moment-là que ça se met en place, c'était de dire, on a des gens qui sont assez différents, ethniquement parlant, au point de vue de leur religion et tout, puisque hein, quand on mettait des Kazakhs, des Kyrgyz, des Arméniens, tout ça faisait un mélange un peu compliqué. Hein, il y avait plusieurs religions, plusieurs ethnies, des quantités de langues. Il essayait, le découpage consistait à dire, on essaye de mélanger les populations et de donner à chacune des républiques une fonction économique, c'est-à-dire en disant le fait d'avoir un travail commun, d'avoir des activités industrielles ou agricoles communes de cette république, ça va donner un corps à cette république. Ça ne sera pas simplement un endroit où sont rassemblés 4 Arméniens et 5 Azéris qui ne s'entendent pas sur beaucoup de choses. Mais dans la mesure où ils travaillent ensemble à des projets concrets et à fabriquer leur économie de république, et petit à petit, on arrive à fusionner tout ça. Et c'était ça la logique de la fabrication de l'Ukraine, c'est-à-dire obliger des gens qui étaient, disons, de mentalité polonaise, hein, pour faire simple, catholique, acharné, anti-russe jusqu'au bout des ongles, et puis donc des gens de la région du Donbass ou de Crimée qui se considéraient comme russes parce qu'ils avaient toujours été russes et qui parlaient russe depuis très très longtemps, c'était ça. Et de dire, de toute façon, on vous met ensemble, on sait qu'il y a de bonnes raisons pour vous fâchier, parce qu'il y en a qui sont orthodoxes, d'autres qui sont athées socialistes, d'autres qui sont catholiques intégristes, on pourrait dire, à ce point-là, mais dans la mesure où vous avez un pays commun qui est grand, qui a des industries modernes, qui a des mines de charbon, qui a des mines de fer, qui a une industrie spatiale, qui a une industrie aéronautique, qui a une industrie minière très 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 florissante, vous devez arriver à avoir un projet national commun. Bon. Alors ça a marché un petit peu, et puis les gens qui ne voulaient pas de ça, hein, donc ceux qui étaient pro-polonais, catholiques et tout, ont profité donc de l'indépendance pour revenir sur cet assemblage qui était relativement récent. Mais cet assemblage avait vraiment fonctionné, avait été mis en place avant la Deuxième Guerre mondiale, et il n'avait vraiment fonctionné qu'après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la reconstruction de l'Ukraine, qui avait beaucoup souffert de la guerre. Et donc, effectivement, à l'échelle d'une vie d'une société ou d'un grand pays, donc de 45 à 91, ça ne fait pas beaucoup de temps pour constituer une nation. Donc les morceaux sont faciles à découpler.
D'ailleurs, le français moyen, oui, ce qui m'a étonné, ne connaissait absolument
rien du tout
de problème de l'Ukraine. Mais ma boulangère, quand je discutais avec elle,
mais oui,
elle m'a dit même le moutarde, les graines de moutarde, on le prend en Ukraine. Je dis, madame, l'Ukraine, c'est un peu plus grand que la France, c'est tout.
Oui, voilà, tout à fait.
Ne croyez pas que le blé, la moutarde, tout ça, il y en a partout.
Mais oui.
Il y en a. Ils fournissent à peine peut-être 5 ou 10% du blé par rapport.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Elle ne savait pas. Alors, bon, surprise
on a un effet...
que maintenant on découvre.
L'effet de propagande a été
le gaz, le pétrole, on n'en parlait pas.
A été considérable. L'effet de propagande a été considérable. Enfin, j'ai pas connaissance, moi j'ai pas souvenir qu'il n'y ait jamais eu sur le fronton de la mairie de Marseille, donc le balcon du maire, un drapeau d'un pays étranger. C'est la première fois que je voyais le drapeau d'un pays étranger. L'Union européenne, c'est autre chose, on en est membre, ça va. Mais un drapeau en permanence d'un pays étranger avec lequel on a des relations comme avec beaucoup d'autres, ça ne s'est jamais vu. Donc il y a une espèce d'effet de propagande, d'alignement sur, pas l'Ukraine ni pas sur les Ukrainiens, sur le gouvernement ukrainien tel qu'il a été mis en place par les États-Unis à la suite d'un coup d'État. Et c'était le soutien donc à un gouvernement putschiste mis en place par une puissance étrangère, à laquelle, bien sûr, on est allié, à laquelle on veut du bien. C'est ça la réalité.
Oui, et puis dont on nous a abreuvé très soudainement,
sans
transition.
Tout d'un coup, voilà. Et en ajoutant la menace nucléaire, etc., tout ça, voilà. Donc il y avait un effet volontaire de sidération des opinions occidentales et de la nôtre, entre autres, pour dire, attention, c'est très très grave, et pratiquement, si on aurait dit les Russes seront demain matin dans les banlieues parisiennes avec leurs chars d'assaut, beaucoup de gens l'auraient cru. Alors les Russes ne sont pas venus souvent à Paris, je le signale quand même. Ils sont venus une fois après la Commune, et ils sont venus à la fin de la guerre de 14, enfin pendant la guerre de 14-18. Bon, il y a eu aussi quelques troupes russes qui sont venues sur le front donc vers 44-45, mais qui sont reparties après. On a vu a des photos de soldats soviétiques défilant sur la Canebière. mais ils sont pas restés. Donc voilà, pour parler de l'Ukraine et de la Russie... Non, j'ai pas tout dit. L'autre élément de détente concerne Kaliningrad. Alors vous savez, je vous avais expliqué, donc Kaliningrad, cette enclave russe qui n'est pas contestée en tant que propriété de la Russie, l'ancienne Königsberg Prusse, donc sur la mer Baltique, qui n'est reliée à la Russie qu'à travers le territoire de la Lituanie et à travers une voie de chemin de fer et une autoroute qui sont... considérées comme des voies normales de passage. Bon. La situation du droit international de ce point de vue-là est parfaitement claire. Elle a été établie par l'Union internationale des chemins de fer, c'est-à-dire qu'un convoi ferroviaire, ou un convoi routier, mais un convoi ferroviaire qui va de Leningrad à la Russie, passe tranquillement et librement sur le territoire de la Lituanie. Il est surveillé, mais il ne fait pas commerce avec la Lituanie, il ne s'arrête pas en Lituanie, et il va là où il a allé. Si on n'appliquait pas cette règle-là, ça veut dire qu'il y a des quantités d'endroits où des trains français ne pourraient pas aller. Hein ? Imaginez, il a existé, je crois qu'il y a encore des éditions recherchées du Simplon Orient Express, vous savez, ce fameux train qui allait donc via Venise, Istanbul et tout, jusqu'en Turquie, jusqu'à dans l'Empire ottoman. Bon, il fallait bien qu'il traverse la Suisse, il fallait bien qu'il traverse la Serbie. Et bon, il n'y avait jamais eu d'obstacle. Si on se met à ne pas respecter ces règles-là, il y a une partie du commerce international qui s'effondre, qui est impossible. Et donc là, alors après toute une émotion là aussi bien orchestrée, il y a eu un accord entre l'Union européenne et la Russie. Donc ça veut dire qu'on s'est vu, on a négocié, et donc à nouveau les trains donc, qui vont entre Kaliningrad et la Russie circulent librement, sous surveillance, mais ils passent sur la voie ferrée qui est en Lituanie. Les Lituaniens regardent, c'est la loi internationale. Là aussi, c'est un signe d'assouplissement, c'est-à-dire à force de dire la loi internationale, on s'assoit dessus, il y a un moment où ça devient complètement ingérable. Et on peut dire effectivement, si la, imaginons que la Chine et toute une série de pays qui utilisent des voies ferrées, qui traversent les pays, disaient on applique tout ça. Par exemple, les trains circulant allant depuis donc, la Chine de l'Ouest, donc depuis le Yunnan jusqu'en Thaïlande, et qui passent à travers le Cambodge pourrait dire je leur interdis de passer. Hein. Bon, donc ça rendrait les relations économiques entre la Thaïlande et la Chine impossibles. Voilà. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, il y en a tout le temps. Donc ça c'est les règles internationales. Et les règles internationales, eh bien, ça doit se respecter. Alors on est, je dis, là aussi dans un moment de détente sur ce front-là. Ça a été annoncé, alors c'était une quinzaine de jours, on avait fait beaucoup de bruit sur Kaliningrad, et puis on n'a pas beaucoup dit qu'il y avait eu une négociation entre l'Union européenne, pourtant si anti-russe, et la Russie, pour dire que ben, la loi, cette loi-là, on l'a respectée, que les trains russes passaient sur le territoire de la Lituanie. Et c'est comme ça. Alors apparemment c'est la Lituanie d'ailleurs qui avait fait, peut-être inspiré, je ne sais par qui avait fait monter la pression. Et puis à Bruxelles, on a lui dire que c'était pas possible, que ça la remettait tout en cause. Alors j'imagine la réaction du gouvernement allemand, parce que jusqu'à présent, le gouvernement allemand, il est en train d'être obligé de changer de politique, c'est qu'il exporte beaucoup de ses produits industriels vers des pays qui ne sont pas mitoyens. Alors c'était vrai jusqu'à il y a quelques semaines pour les exportations vers la Chine. Alors c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais par exemple quand l'industrie allemande exporte vers la Bulgarie, les trains traversent des pays qui ne sont pas la Bulgarie. Et donc il faut bien qu'on les laisse passer et qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Alors la Bulgarie, vous êtes dans l'Union européenne, mais aussi bien l'industrie allemande peut exporter des produits en Serbie. La Serbie n'est pas dans l'Union européenne et donc les trains vont passer en République tchèque, etc. Ou en Croatie. Tout ça fait qu'on a, mystifié, ça a aussi des effets de propagande, on a mystifié ce problème en disant « Regardez, ça y est, il y a la guerre avec la Lituanie, mais il n'y a pas la guerre avec la Lituanie parce que ça met totalement en cause l'architecture des transports internationaux. C'est ça qu'il faut essayer d'expliquer. Pour le reste, alors je parlais de l'Allemagne, je vais quand même en dire deux mots parce que l'Allemagne est au plus mal. Et c'est très intéressant à expliquer. L'Allemagne était en excellente santé depuis en gros 1991. Alors pourquoi l'Allemagne est en excellente santé? Parce que si vous vous souvenez bien, l'Allemagne en 1991, elle a beaucoup grossi. Elle a absorbé 25 millions d'Allemands de l'Est, qu'on appelle les Aussi. Elle a absorbé tout le potentiel industriel de ces régions-là, qui n'était pas nul. C'était une des républiques aussi socialistes les plus avancées. Elle a absorbé une population donc formée, de grandes capacités. Et puis, à partir de ce moment-là, l'industrie allemande a eu accès librement, et elle a eu accès à la voie des usines et puis des capitaux. Enfin, donc elle a pris possession de la quasi-totalité des territoires des anciennes républiques socialistes, ce qu'on appelait les pays de l'Est. Et c'est ça qui a fait une bonne partie de la prospérité allemande. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez une voiture Volkswagen, il y a toutes les chances pour qu'elle ne soit pas produite en Allemagne, mais en République tchèque. Bon, si vous achetez une Skoda, ben Skoda a été racheté par Volkswagen, et Skoda, donc tchèque d'origine, est en fait une usine allemande, etc. Et ça, c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai en Bulgarie, c'est vrai en Roumanie, c'est vrai en Slovaquie, enfin, tout ça. Donc, l'industrie allemande, que ce soit l'industrie mécanique, que ce soit l'industrie chimique, en fait, s'est étendue sur la totalité du continent, jusqu'à la limite de la frontière russe. C'est ça qui s'est passé. Ça s'est fait, alors, dans le mouvement de l'OTAN, qui était le mouvement de côté militaire, mais ça s'est était assez indépendant, mais en fait, l'Allemagne a pris possession de l'ancien empire soviétique. Elle a pris possession économique. Et elle l'a fait sur le dos de ses petits camarades de l'Union européenne. Parce que, alors, il y a quelques industriels français qui ont réussi à mettre des usines ici et là, quelques industriels italiens, etc. Mais enfin, le gros de la razzia a été fait par l'industrie allemande. D'où cette prospérité, ce bilan très très positif du commerce extérieur allemand depuis 1991. Hein, D'où l'euro. L'euro, cette monnaie qui plaît tellement, puisque derrière, il y a cette énorme machine industrielle allemande qui est là, accompagnée bien sûr d'une mécanique bancaire qui est à proportion. Et donc la prospérité allemande était là. Liberté d'action. L'Allemagne avait une espèce de glacis, alors pas un empire colonial, mais enfin une espèce de zone de dépendance économique qui s'accroissait chaque fois que l'Union européenne faisait rentrer de nouveaux membres. Donc on fait rentrer les Croates, par exemple, après la guerre de Yougoslavie, on ajoute un certain nombre de millions de personnes sur le marché allemand. On essaye d'y faire rentrer le Monténégro, on y arrive. On essaye d'y faire rentrer la Bosnie-Herzégovine, c'est un peu plus compliqué. Enfin, chaque fois, l'Albanie, toute l'Albanie s'est fait. Donc tout ça faisait que l'industrie allemande avait le vent en poupe. Alors elle arrivait avec des capacités industrielles, de l'argent dans ses banques, et chaque fois que l'Union européenne, l'OTAN grignotait un pays à l'Est, l'Allemagne arrivait et elle faisait son marché. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé et ce qui ne se passe plus. Ce qui ne se passe plus, puisque le fait que tout ça, les relations soient coupées, que la Russie n'ait plus de raison d'échanger, puisqu'on ne lui achète rien, elle ne vend rien non plus. Hein. Donc tout ça fait que ces pays-là, pratiquement tous, bien qu'ils soient entre les mains des grands groupes industriels allemands, sont aussi dépendants du gaz russe, hein, parce que là, c'est la réalité, et qui sont obligés aujourd'hui de le payer à un prix faramineux, fait que toutes ces économies-là sont en crise avec l'économie allemande. Je vais vous donner un chiffre que j'ai trouvé. Ça ne va pas vous dire grand-chose, mais le gaz naturel se vend à l'unité du millier de mètres cubes. C'est le prix du marché. Aujourd'hui, il se négocie autour de 1900 dollars à 2000 dollars les 10 000 mètres cubes. Oui. Alors, pour donner une idée, le prix aux USA, d'ailleurs, et en Russie, c'est à peu près le même, c'est 190 dollars. C'est 10 fois moins. C'est-à-dire qu'il est impossible de tenir une concurrence industrielle quand on a des prix comme ça. Ah. Il y a une industrie allemande que je vais citer qui s'appelle BASF, vous connaissez sans doute, hein, une grosse industrie chimique allemande, qui fonctionne dans toutes les unités qui sont dans la région du Rhin moyen vers Ludwigshafen, qui fonctionne au gaz, parce que c'est là qu'est l'énergie. Cette industrie est en train de demander à M. Scholz de déménager ses usines en Russie. C'est-à-dire, à ce prix-là du gaz, 10 fois celui que je l'achèterai en Russie, je ne peux pas continuer à faire tourner mes usines. Hein. Mes produits seront à un niveau de prix, je ne vendrai plus rien. Hein. Et donc M. Scholz, et donc le gouvernement allemand, se trouve face à une difficulté considérable. C'est-à-dire,
le gaz liquéfié, ça coûte très très cher.
Voilà. Il se trouve face à cette difficulté de dire, mes industriels vont tous s'arrêter. Hein. Et donc ça s'est vu, puisque d'une part l'inflation des prix, et puis d'autre part la difficulté pour les entreprises allemandes de continuer à avoir une position forte sur les marchés, tout ça est remis en cause. L'Allemagne est en train de s'effondrer économiquement. Alors, et donc en fait l'espèce, alors ce qu'on a appelé l'amitié franco-allemande, l'axe franco-allemand, le couple franco-allemand, c'était un ralliement que je vais qualifier de mitterrandien. Vous allez prendre ça pour de l'hostilité à Mitterrand, mais il se trouve que Mitterrand, quand il a vu donc l'Allemagne de l'Ouest absorber l'Allemagne de l'Est, qu'il a vu ce qu'il allait avoir derrière, c'est-à-dire le rachat de toutes les industries d'Est-Allemagne par les Ouest-Allemands et tout, il a bien compris qu'il se passait quelque chose. Mais, j'allais dire, il a laissé faire, il s'est pas senti capable. Hein. Au nom de l'antisoviétisme, il a trouvé que c'était bien que la RDA disparaisse et tout, et donc il a laissé faire. Et donc ce qui se remet en cause aujourd'hui, et donc l'amitié franco-allemande, le socle franco-allemand dont on a beaucoup parlé, il s'est mis en place à ce moment-là, mais c'était une espèce d'acceptation d'une situation de fait où le rapport de force était totalement en faveur de l'Allemagne, avec en prime la monnaie, l'euro, monnaie forte qui ne désavantageait pas, tout au contraire, l'industrie allemande, mais qui désavantageait cruellement les industries des autres pays d'Europe, en particulier l'industrie française. Tout ça est en train, c'est une page qui se tourne relativement vite sous nos yeux, c'est-à-dire que sur l'exercice de l'année, quand on va arriver à la fin de l'année 2022, on aura un panorama de l'économie de l'Union européenne qui sera profondément bouleversé. Et les bouleversements sont quasi quotidiens, on les observe les uns après les autres, ces craquements dans la redéfinition des règles. C'est pas le seul endroit, puisqu'il se passe aussi des choses très intéressantes en Italie. Alors la semaine dernière, j'insistais en disant que toute cette crise politique générale des rapports de force internationaux a des impacts sur les gouvernements de beaucoup de pays. Et je vais vous reparler de l'Italie, parce que là, ça devient presque commedia dell'arte. C'est-à-dire que le Premier ministre, M. Mario Draghi, ancien donc, directeur, président de la Banque Centrale Européenne, dont les états de service politique sont inexistants, c'est un banquier, c'est tout, hein, il n'a jamais fait de politique, si ce n'est la politique de la banque, et donc il s'est retrouvé Premier ministre comme ça, avec une majorité fabriquée de bouts et de morceaux compliqués, parce que des bouts un peu... Alors, ce qu'on appelle le mouvement des 5 étoiles, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, un mouvement très à droite, pas de droite extrême, mais enfin quand même assez à droite de la Ligue du Nord, avec une majorité bizarre, mais il est quand même une très forte majorité de groupes qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, mais qui lui donnent une majorité forte au Parlement. Et donc il est Premier ministre pour ça, enfin il est président du Conseil, comme on dit à l'italienne. Mais il se trouve qu'il a demandé à sa majorité un peu flottante et un peu bricolée, il a demandé des efforts supplémentaires, il a demandé surtout qu'on arrête les manifestations ou les critiques sur la politique suivie vis-à-vis de la Russie sur la question ukrainienne. Et comme il y a eu des récalcitrants au sein de sa majorité parlementaire, il est allé voir le président de la République et lui a dit « je démissionne, c'est intenable, ils sont vilains avec moi, il y a de désordre dans les rangs ». Et M. Mattarella, le président de la République, lui a dit « je veux pas ». Ah, bon, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors on est en Italie, M. Mattarella dit « non, parce que M. Mattarella dit « s'il démissionne, il n'y aura plus de majorité, on va être obligé de refaire des élections, attendons celles de 2023 qui sont programmées, parce que ce n'est pas la peine d'abuser des élections, on fait tout le temps, et puis on ne sait pas ce qui sortirait de ces élections ». Donc il lui a dit « il faut recommencer ». Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On ne sait pas parce que soit il y va et il retente sa chance et il fait un gouvernement minoritaire pour faire passer la pilule qui est extrêmement douloureuse parce que vous connaissez la situation française, mais la situation italienne est beaucoup, beaucoup plus grave que la situation française. Je veux parler de la situation des ménages, des travailleurs, des étudiants, etc., qui est beaucoup plus dramatique. Hein, et donc ça va être très, très difficile. Mais il le fait au nom de la politique menée par l'Union européenne, c'est-à-dire on sanctionne, on ne travaille pas avec les Russes, etc., etc. Bon. Soit effectivement la crise continue et on a une espèce de gouvernement passager qui va bricoler jusqu'aux élections prochaines. Tout ça, la situation est très tendue. À telle ancienne que c'était, je crois, hier matin, un certain nombre de militants des syndicats de base. Alors la situation syndicale italienne, ça mérite qu'on s'y arrête. En Italie, il y a trois grandes confédérations syndicales. Une confédération à l'origine proche des communistes s'appelle la CGIL, une confédération proche des socialistes qui s'appelle l'UIL, et une confédération démocrate chrétienne, la CISL, qui, alors, ont l'habitude de négocier en commun les accords de salaire au niveau national dans toutes les branches d'activité, et qui, manifestement, soutiennent le gouvernement de M. Draghi comme le moins pire des gouvernements possibles. Mais le fait que ces centrales syndicales, les trois, donc la main dans la main, parce qu'en France, on veut dire, il y a la même répartition des forces syndicales, mais il n'y a pas d'accord. Ils n'ont pas passé 10 ans à signer les mêmes accords entre FO et la CGT. Là, ce bloc syndical italien, il fonctionne depuis plusieurs décennies et apparemment, il est incassable. Bon. Ça a engendré la réaction immédiate, mais petit à petit, de travailleurs de base qui disent « le syndicat ne sert à rien, il ne sert qu'à négocier avec le gouvernement et à faire avaler les positions du gouvernement, donc on se syndique, on s'organise autrement ». Ça a donné lieu à deux types de structures, ce qu'on appelle les USB, Union syndicale de base, ou les COBAS, les comités de base. Donc dans des usines où il y a des problèmes, dans des entreprises où il y a des problèmes, les gens qui avaient leur carte syndicale dans une des trois confédérations disent « on fait un syndicat local entre nous et on essaye de défendre nos intérêts ». Ça fonctionne. Ça fonctionne dans différents endroits et sur différents conflits sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais ce qui s'est passé et qui dérange beaucoup M. Draghi, c'est que les syndicats de cette base, disons, syndicale organisée, ont décidé de ne pas participer à la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire, ont refusé d'envoyer du matériel, ont refusé de participer à la fabrication de produits destinés à la guerre, etc. Par des actions très très claires, des blocages de routes, des blocages de sorties d'usines, des blocages d'aéroports, etc. Ils sont particulièrement forts dans les métiers de la logistique, aéroports, transports, routiers. Ça a fait beaucoup de peine à M. Draghi. Et donc, hier matin, il y a quatre dirigeants de l'USB qui ont été incarcérés. Hein? Et voilà, et oui, ils dérangent, hein, parce que donc ils n'acceptent pas, et ils le font en disant, nous voulons la paix, on ne veut pas la guerre, cette guerre on ne la soutient pas, mais on n'a pas à la soutenir avec nos fabrications, avec nos produits qu'on va exporter pour que des gens s'entretuent avec du matériel italien, morale italienne. Bon, et ça, ils n'ont pas envie. Et donc, ça, on ne peut que les comprendre, mais ça déplaît beaucoup à M. Draghi, et donc ça y est, la chasse aux sorcières syndicales est lancée en Italie. Donc il y a 4 dirigeants syndicaux, des unions syndicales de base, qui sont en prison. Pour, je pense, quelque chose comme... Enfin, on va trouver... Alors, vous savez que dans ces cas-là, les services de police et les services de renseignement savent très, très bien faire. Hein. On vient vous cueillir au petit matin, et comme par hasard, on trouve un pistolet mitrailleur dans votre cabinet de toilette. Hein. Mais tout ça est l'effet du hasard. C'est bien connu. Hein. Et hélas, j'allais dire, il y a de vieilles mauvaises habitudes qui ont été prises en Italie depuis la Deuxième Guerre mondiale, à l'instigation des services secrets des États-Unis. Et on sait très bien, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit, que les militants de base, les militants ouvriers, les militants employés, enfin, la base populaire italienne, quand elle se met à dire qu'elle ne veut pas obéir aux ordres impérialistes, à ce moment-là, les provocations sont tout à fait possibles et on organise effectivement des attentats d'extrême droite, on fait sauter des trains, etc. Tout ça se fait sous la forme de réseaux qui sont structurés par l'OTAN. C'est une vieille histoire connue. Alors la France a été moins sensible parce que la France gaulliste avait un peu plus de distance par rapport à ces activités-là. Mais en Italie, tous ces mécanismes-là ont été mis en place à partir de 1944-45 et ils ont continué à fonctionner en permanence. Et d'où ce qu'on a appelé la stratégie de l'attention, d'où les attentats dans les périodes des brigades rouges, etc. Tout ça fait partie de l'histoire italienne. Alors, c'est pas tout à fait la même que la nôtre, mais on sait d'où elle vient et on sait comment elle fonctionne. Voilà, ça, c'était quelques idées sur l'Italie pour vous dire que, donc, crise politique en Allemagne, crise politique en Italie, crise politique en Grande-Bretagne, puisque là, effectivement, on ne sait pas trop. Enfin, là, le Parti conservateur est à la peine pour trouver un remplacement à Boris Johnson. Et ça a amené un journaliste, je crois que je ne sais pas lequel l'a dit, mais c'est un très joli article. Les difficultés, les crises dans ces états-majors politiques, que ce soit la direction politique italienne ou le Parti conservateur en Grande-Bretagne, c'est des crises où on a le choix entre des criminels avec les pleins pouvoirs ou des imbéciles impuissants. Voilà. Alors, ça donne un assez bon résumé de la situation dans laquelle on se trouve. Voilà. Ensuite... Je regarde l'heure tranquillement.
Ouais, c'est bon.
Quelques mots sur la Chine. Alors la Chine est en train de changer de langage. Alors la Chine reste qu'elle est. On sait alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il a été noté que la croissance économique au deuxième trimestre de l'année 2022 était relativement faible par rapport aux habitudes chinoises prises ces derniers temps. Mais on a effectivement là un contre-coup, la fermeture des échanges, par exemple, entre l'Europe ou la limitation des échanges entre l'Europe à cause des sanctions. Alors, c'est pas la Chine qui est sanctionnée, mais dans la mesure où une partie des exportations allemandes passaient par la Russie et qu'elles n'y passent plus, la Chine est moins bien desservie, elle achète moins de produits en Allemagne parce qu'il faut remettre en place des circuits. Bon. Donc la Chine n'est pas sanctionnée en tant que telle, mais elle pourrait bien l'être. Mais on a un changement de ton des diplomates. Dans les premières semaines, en Occident, on a commencé à dire « oui, mais la Chine ne soutient pas la Russie ». Alors maintenant, c'est tout à fait clair. Les diplomates chinois qui prennent la parole ne font plus dans la demi-teinte qui leur était habituelle. La demi-teinte habituelle, c'était « bon, mais tout ça va se négocier, on va en parler tranquillement entre diplomates ». Maintenant, ils tiennent des propos du genre, je vous en cite un, du genre, ça c'est le porte-parole du ministère qui dit « la communauté internationale, ça n'existe pas ». Et il explique, vous savez, le fameux mot que vous entendez à longueur d'émission, il a dit « non, non, c'est un petit groupe de pays, qu'on les connaît, c'est les pays occidentaux, mais ça n'a été reconnu par personne, ça n'existe pas ». Et donc on a des diplomates chinois qui, au lieu de faire dans le sucré, de dire « on va discuter, nous énervons pas et tout », de dire « maintenant ça suffit, vos histoires de communauté internationale, nous on n'y croit pas, c'est pas sérieux, ça n'existe pas, la communauté internationale, c'est autant nous que vous
hein. ». Très bien.
Bon. Donc on a comme ça des évolutions très très intéressantes.
Il a même déclaré que l'Amérique mentait.
Oui, bah, oui, tout à fait.
Il a déclaré ouvertement.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est une évolution de la Chine. Et puis je voulais revenir pour terminer sur la situation au Moyen-Orient. Alors je ne dis plus Moyen-Orient, je vais dire comme on dit ailleurs, je vais dire l'Asie de l'Ouest. comprenez bien le changement de vocabulaire. Hein, l'Asie de l'Ouest, puisque quand on regarde l'Eurasie, cet immense continent donc, qui va du détroit de Bering à la Manche, en gros, ben, c'est un seul continent qu'on appelle l'Eurasie. Et donc quand on parle de la Syrie, quand on parle de l'Iran, quand on parle de l'Arabie saoudite, on est en Asie de l'Ouest.
Circle Aussat.
Voilà. Ouais, on est en...
Il l'appelle.
Mais ça, oui, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler. C'est, non, on a fait un abus de langage, alors d'origine coloniale, hein, puis c'était notre Orient à nous, avec nos orientalistes, etc., notre Proche-Orient, notre Extrême-Orient, mais non, c'est fini. Là, c'est l'Ouest de l'Asie. Et on en parle comme ça. Et là, on sent bien que les choses sont en train de se transformer. Les rapports, d'abord, parce que ça va se confirmer, la prochaine visite du président Poutine, elle va avoir lieu en Iran.
Aujourd'hui.
Voilà. Voilà, c'est cette semaine.
Mais Erdogan,
voilà,
Poutine et,
voilà, et l'Iran. Et Raïssi. Voilà. Donc là, on voit bien que là tout se passe d'une façon très, très nouvelle. Je veux en prendre pour exemple la façon dont le fameux MBS, donc l'héritier du trône saoudien, a accueilli le président Biden. Alors, ça, c'est assez cocasse, ça fait même beaucoup rire. Voilà. Monsieur Biden arrive, bon, pour essayer, alors il voulait débloquer le marché pétrolier en disant le pétrole coûte un prix épouvantable, essayez d'en vendre plus, de faire casser les prix, etc. Bon. Les Saoudiens n'ont pas trop réagi, mais en plus, il y avait deux messages. Alors, il y avait le message qui était le message business. Alors, écoutez, essayez de pomper un peu plus de pétrole pour faire baisser les prix, pour qu'il n'y en ait plus sur le marché. La deuxième phrase de la propagande états-unienne...
Je m'excuse, mais ils ont dit que les Saoudiens ont dit, mais on pompait, avant que vous veniez, on pompait.
Oui, voilà, et puis ils ont dit, on vous attend pas pour décider de notre politique. Ouais. Et puis, deuxième volet, le volet droit de l'homme, classique, M. Biden, il va de sa critique sur la liquidation du fameux journaliste Khashoggi, hein, découpé à la tronçonneuse dans le consulat de Turquie à Istanbul.
Putain,
alors, je dis découpé à la tronçonneuse, précis, il a été tué et découpé après. Hein, donc il n'a pas été découpé vivant à la tronçonneuse, hein, faisons pas dans l'horreur, c'est déjà assez triste comme ça. Il a été tué et comme il fallait le sortir du consulat, et pas dans un catafalque,
ils l'ont
coupé en petits morceaux, ils l'ont mis dans des valises. Et ils sont sortis avec des valises pour qui apparemment n'étaient pas trop sanguinolents. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Bon, ça c'est fait. Bon, et donc M. Biden, il va de son propos en disant « C'était quand même pas très joli votre histoire de Khashoggi ». Et l'autre a dit « Monsieur, les leçons de droits de l'homme après ce que vous avez fait en Irak, bof, hein, alors il y a à boire et à manger là-dedans ». Alors, c'est la première. Alors, je ne fais pas du tout l'apologie de M. Ben Salman,
non,
du régime saoudien. Mais après tout, je me dis, ça se dit dans Molière, qui se sent morveux, qu'il se mouche. Ça, c'est, je crois que c'est dans le bourgeois gentilhomme, hein, que ça se dit. C'est-à-dire, vous me donnez des leçons de moralité publique,
voilà,
mais qui vous êtes ?
On vous remet à votre place.
Mais qui vous êtes pour donner ces leçons de moralité publique ? Donc, M. Biden est reparti, alors, d'ailleurs, du bon... On a été reçus, puis on va bien voir ce qu'ils vont faire. Alors il faut savoir que M. Bin Salman, avant de le recevoir, il avait prévu le coup. D'une part, il était allé voir M. Erdogan, parce qu'il se rend bien compte que c'est dans cette Asie de l'Ouest que tout se joue en ce moment, et tous les rééquilibres internationaux sont en train de se jouer là. C'est pour ça que Poutine va en Russie, c'est pour ça qu'il va en Iran, c'est pour ça qu'il voit Erdogan régulièrement, c'est pour ça qu'il discute de la réouverture de la mer Noire et des contrats de blé, des convois de blé, etc. Tout ça se joue là. Tout ça se joue là, et ça se joue même en Israël, puisqu'il faut décortiquer le message de Biden en Israël, il n'a pas été suffisamment agressif vis-à-vis des Palestiniens pour qu'il donne satisfaction aux durs Israéliens. C'est-à-dire qu'on voit bien que, et c'est vrai donc en Arabie Saoudite, par rapport à ce que la réponse de M. Bin Salman en disant « vos notions sur les droits de l'homme, on n'en a pas grand-chose à faire », et il faut bien voir qu'en Israël, M. Biden n'a pas crié « continuez la colonisation » comme l'avait fait Trump. C'est-à-dire que les Israéliens se sentent un peu lâchés. Ils n'ont plus l'espèce d'ami qui, à qui on disait, ah, vas-y, bombarde, fais quelque chose et tout, et qui disait toujours oui. Et donc, pourquoi Biden, il est mal? Parce que la terre lui manque sous les pieds. C'est-à-dire qu'il n'est plus le maître du jeu. S'il dit à Israël, vous allez maintenant envahir le Liban, il sait que ce n'est pas possible parce que le Hezbollah ne laissera pas faire. S'il dit, continuez à bombarder la Syrie, la Russie fait savoir que la prochaine fois que des avions israéliens bombardent la Russie, ils auront affaire à des missiles antiaériens russes. Donc ça suffit maintenant, ce genre de choses. Donc il sait qu'il n'a plus beaucoup de possibilités de travail.
Et surtout, ils attendaient une position contre l'Iran.
Voilà.
Et ça n'a pas été fait.
Voilà,
plus.
Ils attendaient aussi une condamnation de l'Iran, qui est leur ennemi, qui les empêche de dormir, et ils n'ont pas eu de condamnation de l'Iran. Donc ils ont peur qu'effectivement il y ait des négociations qui permettent à l'Iran de continuer son activité nucléaire, qui n'a jamais été une activité de préparation de bombes atomiques. Et ils voient bien que, de toute façon, l'Iran est bien accueilli, enfin, travaille régulièrement avec la Russie, travaille régulièrement avec les Syriens, travaille régulièrement avec des voisins à eux, et donc que c'est pas possible aujourd'hui. Si M. Biden a fait cette espèce de visite là, de courtoisie, c'est qu'en fait il a entériné le fait qu'il n'est plus le maître du jeu à aucun endroit. Alors il peut, tout au plus, ce qu'il fait, et ça rapproche de la situation afghane, il peut laisser pourrir très longtemps.
Oui.
Ça, c'est encore une capacité de nuisance réelle. Laisser pourrir en Syrie en lissant des hommes, en formant des djihadistes, etc. Mais ces capacités d'intervention positive, c'est-à-dire transformer une situation, renverser un gouvernement, sont extrêmement limitées aujourd'hui. Le seul pays où ils ont encore un excès de pouvoir par rapport aux pouvoirs locaux, c'est encore l'Irak. Mais partout ailleurs, c'est à peu près fini. Parce que ni l'Égypte, ni la Syrie, évidemment, ni même maintenant les Syriens, les Saoudiens, ni même les Émirats arabes unis, plus personne n'obéit au doigt et à l'œil à Washington.
Ce qu'il ne faut pas oublier dans le truc, c'est que M. Biden a rencontré les Émirats, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte, l'Irak.
Il a rencontré tout le monde.
Tout le monde a pris une position, d'ailleurs, pour la Palestine.
Voilà. Et alors, en plus, effectivement...
Traitons le problème palestinien, on verra par la suite.
C'est ça le cœur de la difficulté. Alors, il était bien obligé de répondre un peu, parce que la fameuse journaliste israélienne qui a été assassinée donc, par un tueur de l'armée israélienne avait la double nationalité.
C'est une palestinienne. Citoyenne.
Voilà, elle était palestinienne et états-unienne. Elle avait les doubles nationalités. Bon, donc, M. Biden aurait dû insister là-dessus en disant... Il ne l'a pas fait. Mais ça veut dire que, manifestement, il est très mal à l'aise. Et cette tournée... Alors, j'allais dire, je lui en veux pas, le pauvre, mais il n'a plus la maîtrise de la situation au Moyen-Orient.
Qu'est-ce qu'il a dit dans ce là? Il a dit, vous voyez,
c'est
fini, l'Amérique
a fini. Voilà.
C'est un vieux.
Et Nasrallah a ajouté dans le dernier commentateur qu'il a fait, il a dit, écoutez, en 2006, tout a changé, c'est-à-dire, cette année-là, l'Israël a compris qu'il ne pourrait plus jamais envahir un pays voisin.
Ouais.
Alors il pourra encore à l'occasion bombarder, faire des misères, etc. Envahir avec des soldats, occuper un pays étranger voisin, que ce soit la Jordanie, que ce soit le Liban, c'est plus possible. Bon. Donc on est en train de tirer le bilan de toutes ces évolutions-là. Et on va en tirer encore quelques autres. Donc vous voyez, basculement dans cette région qui est centrale dans la géopolitique.
C'est pas clair encore,
Non, parce que les choses bougent. On sent bien que donc, les Américains perdent la maîtrise de la situation. Et puis d'autres acteurs pèsent lourd. Donc l'Iran, la Russie, la Turquie. Et c'est entre eux que se répartit le nouveau pouvoir. Et sans oublier évidemment l'Égypte. Voilà, plus qu'une minute. On va finir sur une très belle musique qui est un hommage à la révolution cubaine à Fidel Castro. S'appelle L'Élu.
Fidel.
Puisque, au fond, malgré toutes les misères, ce pays a réussi à tenir. Voilà.
Et aussi, en début d'émission, en fait, il y a eu un problème de son.
Oui.
Du coup, si tu veux redire que semaine prochaine...
Voilà, donc les deux mardis qui viennent, il n'y aura pas d'émission. Et on se retrouvera, donc, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, le mardi 9 août. Et Aïcha m'a dit que je pourrais un jour téléphoner à la radio si jamais il y a la révolution quelque part.
On viendra.
Voilà. ou si Macron s'enfuit dans une île parce qu'il n'arrive pas à trouver une majorité. Voilà. Ça peut arriver. Peut arriver. Merci Aïcha.
Merci à vous.
À bientôt.
Siempre que se hace una historia. Se habla de un viejo, de un niño o de sí. pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo.